Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos réactions, vos témoignages sur le pouvoir d'achat, avec en toile de fond l'entrée en vigueur hier au Sénégal de la baisse du prix de plusieurs denrées de première nécessité. La mesure, vous le savez, était très attendue. Il faut dire que ces trois dernières années, tous les produits préférés des Sénégalais ont explosé. Les dépenses alimentaires, tenez-vous bien, représentent désormais la moitié du budget des ménages. Le nouveau gouvernement a donc annoncé une baisse des prix. Sont concernés le riz, l'huile, la baguette de pain. C'était une promesse électorale. Reste à savoir évidemment si cette décision sera respectée par les commerçants. D'ailleurs, vous qui nous écoutez ailleurs, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, appelez-nous, témoignez, dites-nous si de telles mesures ont déjà été prises dans votre pays et pour quels résultats. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité et pour commencer, des questions sur la future constitution au Gabon. Bonjour Hulbert.
Bonjour Juan Gomez, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi de discuter avec un auditeur d'Abéché, vous êtes au Tchad.
Effectivement.
Voilà, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Eh bien, suite au dialogue national inclusif, le Gabon a un projet de nouvelle constitution. Quels sont les principaux changements apportés par ces nouveaux textes? Quelle va être la suite de la procédure?
Ah oui, c'est vrai qu'RFU a pu obtenir les principales mesures de la nouvelle loi fondamentale. Bonjour Yves-Laurent Goma.
Bonjour Juan.
Correspondant de RFI à Libreville, l'un des rédacteurs du nouveau texte affirmait à RFI il y a quelques jours que la future constitution sera, je le cite, « la plus démocratique de l'histoire du pays ». Quels sont donc les principaux changements?
Alors, je veux commencer par le principal, c'est que le régime présidentiel... Le principal changement, c'est l'instauration d'un régime présidentiel contraire au régime parlementaire en vigueur actuellement. Si le projet de constitution est adopté en l'état, le Gabon n'aura plus de Premier ministre. Le président de la République deviendra l'homme fort du pays car il sera également chef du gouvernement. Son mandat sera de 7 ans, renouvelable une seule fois. Dans la constitution dissoute par les militaires après le coup d'État, le mandat présidentiel était de 5 ans renouvelables à volonté. Pour éviter de fabriquer un dictateur qui concentrera tous les pouvoirs entre ses mains, les rédacteurs de la Constitution ont suggéré que le président soit responsable devant le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Un système de destitution est prévu. Il sera possible pour haute trahison, violation du serment ou de la Constitution. La haute trahison concernera notamment les crimes de corruption ou d'intelligence avec une puissance terroriste. Pour être validée, cette destitution devra être votée par au moins 2/3 des parlementaires. Autre nouveauté, parce que c'est ce que notre auditeur demande, c'est la mise en place d'un système anti-tripatouillage de la Constitution, c'est-à-dire certains articles de la Constitution seront quasi inviolables, notamment ceux concernant la durée et le nombre des mandats présidentiels.
Oui, la seule façon de modifier ces articles justement sur la durée et le nombre de mandats présidentiels sera de changer de constitution et ça passera forcément par un référendum. Yves-Laurent Goma, le nouveau texte doit maintenant être remis au chef de l'État, le général Brice Oligui Nguema. Quelle sera la suite du processus?
Oui, voilà, c'est ce que vous avez dit en partie. Donc, le comité qui a rédigé le projet de constitution doit le remettre au président de la transition en sa qualité de garant des institutions et de la vie de la nation. Celui-ci doit ensuite le remettre au premier ministre chef du gouvernement. C'est à lui que reviendra la charge de soumettre le projet à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les deux chambres du Parlement gabonais vont se réunir en congrès pour adopter le projet en des termes identiques. Une fois cette étape terminée, le ministre de l'Intérieur convoquera à son tour le corps électoral pour le référendum. Selon le chronogramme de la transition, ce référendum aura lieu avant fin décembre de cette année. C'est pour cela que le ministre de l'Intérieur fait adopter actuellement en urgence un projet de code électoral pour lui permettre d'organiser ce référendum en toute légalité.
Et je précise que ce nouveau texte n'a pas encore été publié, même si quelques médias, dont RFI, ont obtenu une copie. On vous a donc détaillé les grandes lignes de la nouvelle constitution gabonaise, qui doit encore être approuvée, évidemment, par les citoyens lors de ce référendum. Et on aura l'occasion, évidemment, de vous donner la parole, auditrices et auditeurs gabonais. Hulbert, bonne journée au Tchad. Et merci de nous écouter à Abéché. Et un grand merci évidemment à Yves-Laurent Goma, correspondant de RFI à Libreville. Libreville où il est 9h16. Bonjour Edith Divin.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Bienvenue à Léo.
À Léo. Léo. Oui. Léo, c'est
Léo. Léopoldville.
Ah, Kinshasa. J'avais pas compris, excusez-moi. Oui, à Kinshasa. Comment allez-vous, Edith Divin?
J'ai très bien, merci. Et vous?
Ça va, merci bien. Vos questions, on vous écoute. Edith Divin ?
Oui. Oui.
Vos questions, on vous écoute.
Oui. Les autorités nigériennes ont retiré le permis d'exploitation du gisement d'uranium d'Imouraram à l'entreprise française Orano. Alors, quelques préoccupations nous tiennent à cœur à savoir. On m'a expliqué cette mesure alors que le porte-parole d'Orano avait affirmé que les infrastructures avaient réouvert.
Ah oui, bonne question que vous posez. Je précise que la mine d'uranium d'Imouraren est considérée comme l'un des plus importants gisements au monde, avec 200 000 tonnes de réserves. Bonjour Julien Clémenceau.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, chef du service économie de RFI. Alors effectivement, aidez-nous à comprendre. La junte avait fixé un ultimatum à Orano. L'entreprise française devait réaliser des travaux sur le site. Travaux qui visiblement ont été lancés. Alors pourquoi la junte décide-t-elle de retirer ce permis d'exploitation à Orano ?
En fait, Orano était sous pression depuis un moment. En avril, le groupe français a d'ailleurs présenté un calendrier aux autorités nigériennes qui fixait le début de la production à Imouraren en 2028. L'impatience de Niamey sur le sujet n'a rien d'étonnant finalement parce que l'État nigérien détient 34% de la société chargée de l'exploitation. Donc ça veut dire qu'un peu plus d'un tiers de la production d'uranium lui reviendra quand elle aura démarré. Et c'est donc dans ce contexte que Bloomberg a révélé début juin que le groupe français était susceptible de perdre l'un de ses permis. Et ce n'est qu'après qu'Orano a fait savoir qu'il reprenait des travaux sur le site.
Alors, il faut préciser qu'Orano possédait jusqu'à jeudi dernier 3 permis dans le pays.
Hein. Oui, 3 permis. Un premier pour des mines qui ont fermé en 2021 parce que les ressources sont épuisées. Alors, ces mines, elles étaient exploitées par la Cominac qui mène maintenant des travaux de réaménagement. Donc, c'est une filiale d'Orano. Un second qui concerne des mines gérées par la Somaïr. Là-bas, l'activité s'est arrêtée après le coup d'état de juillet parce qu'il était impossible, selon Orano, d'importer des réactifs chimiques nécessaires à la production. Progressivement, donc, l'activité a repris à partir du mois de février. La Somaïr, c'est quand même 15% de l'importation d'uranium utilisé par les centrales européennes. Et enfin, il y a le gisement géré par la société Imouraren et ça.
Ouais. Pourquoi Orano a arrêté ses travaux sur le site d'Imouraren qui, je le disais en préambule, est quand même l'un des plus gros gisements d'uranium au monde?
Oui, ça fait une dizaine d'années, grosso modo, que le projet d'exploitation était gelé. Imouraren, selon Orano, c'est un gisement évidemment de classe mondiale, mais complexe. Ça veut dire que la teneur en minerai est faible. Pour obtenir 1 kg d'uranium, il faut extraire plus d'une tonne de roche. Alors au départ, selon Orano, la production devait démarrer en 2015, mais tout a été mis en sommeil après l'accident survenu sur la centrale de Fukushima au Japon. L'accident qui a fait plonger le prix mondial du combustible nucléaire. Et là, justement, la hausse des cours justifie, toujours selon Orano, la reprise du projet d'extraction.
Alors Orano parle de travaux, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors nous avons interrogé Orano et l'entreprise parle de chantier préparatoire. Par exemple, vérifier si les engins sont prêts à fonctionner, remettre en état la base où vivent les salariés et retirer des couches de terre pour préparer la production, production donc qui devait démarrer en 2028. Mais pour Niamey, le groupe français n'a clairement pas rempli ses obligations. Alors, ce n'est pas exceptionnel qu'un permis minier soit repris parce que la société qu'il possède n'a pas entrepris les actions nécessaires pour la valorisation du gisement. C'est même prévu dans beaucoup de codes miniers. Et c'est ce que dit Niamey, hein, en rappelant que la production devait démarrer en 2012. Du côté d'Orano, on rappelle quand même qu'1 milliard d'euros a été investi depuis le début des années 2000 sur le site d'Imoaren. Et 250 millions devaient encore être dépensés pour permettre le début de son exploitation.
Ouais, Edith Divin, vous avez d'autres questions?
C'est en quel partenaire étranger pourrait reprendre l'exploitation? L'entreprise envisage-t-elle de contester cette décision?
Alors, Julien Clémenceau, sur les partenaires étrangers.
Alors, selon Bloomberg, Niamey aurait discuté d'une possible reprise d'Imoaren par des intérêts russes. Mais à ce stade, sans annonce officielle, aller plus loin, c'est vraiment se laisser aller à des spéculations. On a essayé de sonder les autorités nigériennes. Elles nous ont indiqué par un intermédiaire qu'elles feraient des déclarations, mais finalement, pour le moment, c'est silence radio. Ouais.
Et Orano, entend alors, contester la ça. Décision prise par la junte?
Orano n'a pas fait une croix sur son permis, hein, en dépit des déclarations encore hier des autorités. Dans le communiqué que le groupe a publié après l'annonce de la décision prise par Niamey, il indique d'une part rester ouvert à la discussion, mais aussi, et je cite, se réserver le droit de contester la décision du retrait de permis devant les instances compétentes, qu'elles soient nationales ou internationales.
On a répondu à vos questions, Edith Divin?
En tout cas, c'est parfait.
C'est parfait. Et les explications de Julien Clémenceau sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Merci Julien.
Merci Juan.
À très vite, 10h22 à Paris. Appelez-nous. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. On va parler football maintenant. On a des questions sur l'Euro 2024. Bonjour Valentin.
Et bonjour Juan, bienvenue à N'Djamena et bonjour à tous les millions d'auditeurs.
Et merci de nous accueillir dans la capitale tchadienne. Vous avez des questions concernant l'équipe de France?
Oui, monsieur Juan. Depuis le début de l'Euro 2024, les Bleus n'ont pas brillé en n'en marquant aucun but lors de leurs deux matchs. Comment l'expliquer?
C'est vrai qu'ils n'ont pas marqué du tout. Enfin, certains diront, mais si, ils se sont imposés face aux Autrichiens. Je rappelle que, oui, les Bleus se sont imposés 1-0 face à l'Autriche, mais c'était grâce à un but contre son camp inscrit par un défenseur autrichien. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI à l'Euro 2024, vous sillonnez l'Allemagne pour nous faire vivre cette compétition. D'ailleurs, en ce moment, vous êtes sur la route, hein, direction Dortmund, c'est bien ça?
C'est ça, exactement. Je suis à mi-chemin entre Leipzig et Dortmund.
Voilà, pour suivre évidemment l'équipe de France qui rencontrera ce soir la Pologne. Expliquez-nous cette absence de but.
Cette absence de but, elle s'explique par l'absence de l'élément numéro 1 de l'attaque tricolore, hein, Kylian Mbappé, qui avait été décisif contre l'Autriche, puisque c'est lui qui amène le but contre son camp autrichien. Et sa blessure, son nez cassé, a forcément eu une influence lors du match contre les Pays-Bas, où les Français ont manqué de réalisme, de qualité offensive aussi. Ils ont tiré 16 fois au but et cadré seulement à 3 reprises. Même si on ne peut pas refaire l'histoire...
Ah, Antoine Grenier, que nous avons perdu. J'espère qu'on va le retrouver. Antoine, êtes-vous là? Alors, j'espère qu'il sera là en tout cas tout à l'heure ce soir pour nous permettre de vivre, la dernière rencontre des Bleus de la phase des poules. Antoine, vous êtes de retour?
Oui, pardon. J'étais en train de dire que Mbappé aurait pu faire la différence dans un match comme celui contre les Pays-Bas. Il n'y a pas non plus d'inquiétude déraisonnable, hein, parce que les joueurs se sont créés des occasions à l'image d'un Antoine Griezmann maladroit qui sera sûrement sur le banc ce soir face à la Pologne. On a vu aussi des milieux de terrain qui se sont créés des occasions comme Rabiot ou N'Golo Kanté. Il y a aussi l'inconnu du niveau des autres attaquants quand Mbappé n'est pas là. C'est-à-dire que Marcus Thuram, c'est seulement 2 buts en 22 sélections. Randal Kolo Muani, c'est à peine mieux. Oui. Après, la dernière explication, elle vient peut-être de Didier Deschamps lui-même, qui avait considéré qu'un point, c'était suffisant face aux Pays-Bas et qui a aligné une équipe avec un milieu de terrain renforcé plutôt que de tout miser sur l'attaque. Ça aussi, ça explique que les Bleus ne marquent pas beaucoup.
Ouais, du coup, savez-vous si Didier Deschamps va justement changer de stratégie tout à l'heure face aux Polonais?
Changer de stratégie, non, mais il va compter sur le retour de Kylian Mbappé. Il va l'aligner avec Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, qui sont ses partenaires d'attaque privilégiés. Ça, c'est pas ça, avec cette incertitude-là, de savoir si Kylian Mbappé sera à 100% ou non. A priori, il sera titulaire, Kylian Mbappé, et c'est l'arme offensive numéro 1 de l'équipe de France. Après, il n'y a pas d'inquiétude, l'équipe de France ne joue pas sa qualification. Elle est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, mais ce qu'elle vise, c'est la première place du groupe.
Bonne route jusqu'à Dortmund, mon cher Antoine Grenier, et on vous écoutera évidemment régulièrement pour prendre des nouvelles des Bleus à partir de 16h temps universel. Ce sera le coup d'envoi de ce dernier match de la phase des groupes pour l'équipe de France. Merci à vous Valentin, très bonne journée à N'Djamena, et je suis ravi d'accueillir Yosounon au Bénin. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Nasser et Temati.
Ah, Nasser Etemadji, vous êtes bien informé. Etemadji, il est à mes côtés. Il est journaliste au service en langue persane de RFI. Bonjour Nasser.
Bonjour, bonjour Juan. Bonjour,
soyez le bienvenu dans ce studio. Younoussou, vous avez des questions sur l'Iran?
Oui. En fait, la condamnation à mort du rappeur Toumaj Saïli a été annulée par la Cour suprême iranienne. Ma première question, comment expliquer cette décision?
Ah, je rappelle, Nasser Etemadji, que Toumaj Saïli avait été condamné il y a 2 mois à la peine capitale. Il est poursuivi pour avoir soutenu sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers ses chansons, ce mouvement de contestation déclenché après la mort de Mahsa Amini. Rappelons-le, oui, cette jeune Iranienne battue à mort par la police des mœurs. Comment expliquer la décision de la Cour suprême? Pourquoi l'annulation de sa condamnation à la peine capitale?
En fait, c'est la première fois que la Cour suprême annule la peine de mort prononcée contre Toumaj Saïli, mais c'est la deuxième fois, en tout cas, qu'elle considère aussi que la décision du tribunal de la première instance concernant Saïli était dès le départ entachée d'irrégularité. Mais cette annulation intervient en tout cas en plein campagne électorale pour désigner le nouveau président iranien.
Ouais, l'élection se tiendra ce vendredi. Hein.
Voilà, un peu plus d'une semaine. Donc, cette coïncidence est chargée de sens. Pour le régime islamique, le seul et l'unique enjeu de cette élection est le taux de participation des électeurs pour choisir parmi 6 candidats autorisés, 5 conservateurs et un modéré. Un nouveau président est de donner par la même occasion une apparente légitimité à un régime qui en manque terriblement, justement à partir du moment où il y a eu cette répression sanglante de mouvements.
Et il faut dire, Nasser Etemadji, qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnalités qui appellent à boycotter cette élection de vendredi.
Il y a beaucoup de personnalités de la société civile, notamment des gens, des prisonniers politiques, dont Narges Mohammadi, qui est en fait qui est lauréat du prix Nobel de la paix.
Et donc, suspendre, en tout cas annuler la condamnation à mort de ce célèbre rappeur, c'est une façon pour les autorités d'envoyer un signal, notamment à une partie de la jeunesse iranienne, en disant, voyez, on fait des gestes, venez voter, participez à cette élection vendredi.
Exactement. En fait, à partir du moment où le seul enjeu de cette élection, c'est le taux de participation, dans une société dont 60% des habitants ont moins de 30 ans, il est bien évident que ces taux de participation dépendent de la jeunesse et notamment de sa volonté de participer massivement à cette élection.
Yosounon, vous avez une autre question à poser à Nasser Etemadji?
Oui, Juan. Un nouveau procès a été annoncé. Y a-t-il un risque qu'une peine de mort soit à nouveau prononcée?
Alors, c'est vrai que l'affaire a été renvoyée devant un autre tribunal.
Bien sûr. Oui.
Il risque, malgré tout, la peine de mort?
Le risque est toujours là. On ne pourrait pas dire que le danger est écarté. Ils ont annulé cette exécution pour gagner justement la sympathie des gens à l'occasion de cette élection. Mais tout en annulant le verdict, la Cour suprême a renvoyé l'affaire devant un tribunal identique où des nouvelles charges, une fois l'élection présidentielle terminée, pourraient être retenues contre Toumaj Saleri et alourdir soit ses peines d'emprisonnement ou aboutir à nouveau à la peine capitale. Mais de telles éventualités dépendraient de rapports de force entre le régime islamique et la jeunesse d'une part et le régime islamique et la société mondiale d'autre part. En tout état de cause, une chose est sûre, pour le gouvernement iranien exécuter Touma Salehi serait un risque énorme et ne peut rester sans conséquences, même si, par expérience, on sait que l'on doit s'attendre à toute éventualité s'agissant du régime iranien.
Touma Salehi, considéré en Iran par une partie de la jeunesse comme étant un héros national. Merci infiniment, Nasser Etemadi, d'être venu répondre à Yosounon, à qui je souhaite une belle journée, à Parakou, au Bénin. Il est 10h30. À